Bonjour Laurent Fraîcheret, donc vous présentez à l'Opéra de Saint-Étienne Martien Martienne de Ray Bradbury. Il est connu surtout aujourd'hui pour Fahrenheit 451, mais là vous mettez en scène une des chroniques martiennes, et donc j'aimerais savoir pourquoi celle-là, et si vous pouvez nous parler aussi un peu de Ray Bradbury. Qui est-il pour vous?
Bonjour d'abord. Quand j'avais 13 ans, donc il y a 40 ans, j'ai lu Les Chroniques martiennes de Ray Bradbury, qui est son best-seller avec Fahrenheit 451, qui est écrit en plein macartisme aux États-Unis, donc en 1950. Et Ray Bradbury fait figure déjà d'iconoclaste inventeur. On va dire que c'est un auteur de science-fiction, mais lui, il se déclare, et je pense vraiment que c'est un poète. Donc c'est de la poésie-fiction, puisqu'il dit qu'il faut penser à l'avenir, faire de l'anticipation, mais en se nourrissant du passé très lointain. Puisqu'il dit que ces Martiens ressemblent aux peuples disparus, comme les Égyptiens, les Mayas, les Incas. Il dit « N'oubliez jamais le passé pour vous projeter dans l'avenir. » Et il fait une œuvre tout à fait fantaisiste et singulière tout au fil de sa vie, qui fut très longue, puisqu'il a disparu en 2012. Et pour moi, il fait partie de cette famille qui, moi, me touche et me bouleverse depuis que je fais du théâtre. C'est des poètes, au sens large du terme, et des grands inventeurs de mots et de mondes. Et quand je lis cette nouvelle, particulièrement au milieu des 30 nouvelles des Chroniques martiennes, je lis cette nouvelle qui s'appelle « Illa », et qui est l'histoire d'une martienne qui s'ennuie avec son martien de mari, une sorte de Madame Bovary martienne, qui tout à coup va avoir un rêve, puisque les martiennes sont télépathes. Son rêve est en fait une connexion télépathique avec un être étrange, puisqu'il a la peau blanche, les yeux bleus, les cheveux noirs, alors que les martiens ont la peau dorée et les yeux comme des pièces d'or, et que c'est un géant puisqu'il fait 1,80 m, alors que les martiens sont tout petits. Et donc peu à peu on se rend compte que ce rêve n'est pas qu'un rêve, c'est le premier astronaute américain qui s'approche de la planète Mars, qui arrive dans sa fusée et qui commence à nourrir. Chaque nuit elle rêve à lui et il lui apprend des chansons de son pays, donc de la Terre. Il lui apprend une souris verte qui courait dans l'herbe, il lui apprend plaisir d'amour ne dure qu'un moment. Et elle va nourrir une relation sentimentale, voire amoureuse, avec cet être qui s'approche et qui vient d'ailleurs. Elle est tout bêtement très ouverte à l'inattendu, à l'extraordinaire, à l'étranger. Alors que son mari, qui évidemment l'entend parler toutes les nuits avec cet homme bizarre, commence à être extrêmement jaloux et lui est sur une attitude de protectionnisme, de nationalisme, on pourrait dire. Si on comprend ce que Bradbury a voulu dire, il est très poétique, mais il est très politique évidemment. Et il dit qu'il faut avoir une attitude d'ouverture face à l'étrange étranger qui arrive d'ailleurs, plutôt qu'une attitude de fermeture. Et notre mari martien est tout à fait fermé à toute intrusion dans son rituel, dans ses codes, dans ses lois, dans ce qu'on pourrait appeler la culture martienne, qui est très sèche puisqu'il n'y a pas d'eau sur Mars, les canaux sont vides et cette martienne ne rêve que d'une chose, c'est d'avoir de l'air, d'avoir de l'eau, d'avoir de l'espoir, d'avoir un petit peu d'inattendu qui éclaire sa vie morne et triste. Et cette nouvelle m'a bouleversé et 40 ans plus tard, on en fait du théâtre avec deux options, deux choix. Très important, c'est nos choix esthétiques, on va dire, et aussi citoyens. C'est que j'ai voulu que cette nouvelle soit du théâtre musical, suite à ma rencontre avec les percussions claviers de Lyon. Donc il y a une heure de composition musicale sur le livret, sur le texte, sur mon adaptation de cette nouvelle qui a été faite par Moritz Egert, compositeur allemand qu'on aimait beaucoup et qui a accepté d'écrire cet opéra parlé. Et la deuxième chose que je voulais, c'était que cette nouvelle, qui est plutôt une écriture pour ados ou pour adultes, mais bon, les ados sont des adultes, c'est que je voulais vraiment l'ouvrir au maximum. C'est toujours une attitude d'ouverture et de relier plusieurs générations dans la salle. Donc j'ai voulu abaisser l'âge à 8 ans. Et c'est un vrai risque et une vraie aventure, une vraie expérience que j'explique aux spectateurs avant la pièce, d'être tous des télépathes. Les spectateurs de théâtre sont des télépathes aussi, puisqu'ils communiquent et ils partagent quelque chose sans parler pendant une heure. Et pour le moment, les enfants sont formidables dans le retour, dans leur écoute et dans toutes les rencontres et les débats qui ont lieu là, par exemple, au théâtre Copeau, après chaque représentation. Donc on est très heureux.
Justement, j'allais vous demander, parce que le challenge était vraiment d'adapter un univers en fait quasi extraterrestre comme ça, oui. Visuel. Et comme vous le disiez, vous avez fait appel donc à un compositeur allemand, Moritz Egert, mais aussi à un groupe de Saint-Étienne, le Scénocosme, qui eux s'occupent de la création numérique. Le retour des enfants comme ça, est-ce que c'est positif?
Alors l'invention de Scénocosme, donc Grégory Lasserre et Anaïs Medenanx, ça a été une surprise et une belle rencontre pour moi. J'ai voulu vraiment que, comme les percussions claviers de Lyon et Moritz Egert apporte le son, apporte la musique, qu'ils apportent les images des rêves de la martienne. C'est-à-dire qu'ils ont créé une invention à partir d'un écran tactile de tulle élastique qui fait qu'avec des capteurs, c'est la martienne, c'est la comédienne chaque jour qui crée des images en touchant une membrane qui devient la surface de projection d'images qui réagissent à chaque fois différemment. Donc c'est une invention de Scénocosme qui va tout à fait dans comment on peut effectivement incarner, montrer les rêves d'une martienne qui sont décrits dans la nouvelle de Bradbury avec des mots évidemment, comment nous on en fait des images. Et je voulais pas de la vidéo stricto sensu, je voulais vraiment de l'art numérique qui réagit au présent. La définition de l'art numérique, c'est vraiment que c'est interactif, c'est au présent, et ça crée quelque chose d'assez étrange. C'est la comédienne qui crée ces images.
Et donc la réaction des enfants par rapport à cet univers à la fois visuel et auditif ?
Eh bien, ils sont formidables parce qu'ils nous posent beaucoup de questions. Je trouve qu'ils sont extrêmement adultes, en fait, et tout en restant des enfants. Moi, je les interroge aussi pour voir ce qu'ils ont compris, ce qu'ils n'ont pas compris. Il y a vraiment des strates, des niveaux de lecture différents dans ce spectacle. Les adultes peuvent y voir des problèmes de couple, mais les enfants y voient évidemment aussi une attitude de dialogue ou d'ouverture au monde, ou au contraire de radicalisation, de « on ferme ». Et évidemment, ça parle d'aujourd'hui, vous l'aurez compris.
Oui, effectivement, à la fois quand on parle de Mars, puisque c'est vraiment d'actualité, puisqu'on suppose que des humains iront sur Mars dans très peu de temps.
Alors c'est formidable ce que vous dites, parce que Bradbury, ça commence, nous sommes en 2030. Oui. Et effectivement, il a été assez visionnaire, parce qu'on pense que c'est autour de 2030 que l'homme mettra peut-être le pied sur Mars.
Et justement, est-ce que les enfants ils vous posent des questions là-dessus, sur Mars, sur ces mondes
Oui, il y a vraiment des questions différentes chaque jour, mais ça parle beaucoup, c'est ça qui me plaît, c'est que plus qu'une attirance pour de la science ou des questions technologiques ou sur Mars, ils nous parlent beaucoup de relations humaines et donc de questions terriennes. Et je crois que dans ce cas-là, plus on est terre à terre et plus on est proche d'un rêve et plus on est proche d'une réflexion, d'une pensée en action. Et le spectacle est vraiment fait pour activer les neurones des petits, des moyens et des grands.
Peut-être une dernière question. On avait vu Herwart l'an dernier avec vous. C'était une fable un peu comme ça, un peu folle, un peu philosophique, plantée. Et là, vous êtes dans la continuité en quelque sorte, puisqu'on est dans un univers extraterrestre. Alors est-ce que ça veut dire que vous aimez nous amener en dehors de notre confort peut-être mental habituel ?
Oui, je crois que je suis très attiré par la poésie qui s'incarne et qui devient du théâtre. C'est-à-dire aborder des questions politiques, mais sans être dans quelque chose du domaine de l'agit-prop ou de quelque chose qui parlerait que du fond. Mais la forme, pour moi, est un vrai engagement, en fait, de créer des formes. Et puis de sortir peut-être de la logique. J'adore cette phrase de Beckett, qui est quand même un des amours de ma vie. Il disait « Il faudra en finir un jour avec cette saloperie de logique ».
Bon, bah merci beaucoup. Et donc, vous tournez encore peut-être cette pièce après Saint-Étienne ?
Oui, après, on est à Villefranche-sur-Saône et l'année prochaine à Saint-Nazaire, etc., etc. J'espère qu'on va aller jusqu'à Mars, en tout cas.
Merci beaucoup.
Je vous remercie beaucoup.